Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, 10h-11h, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans vos animaux, merci à vous pour votre fidélité. Alors au programme aujourd'hui, nous allons parler d'arthrose qui n'épargne pas nos chiens et nos chats. Si votre animal n'est plus aussi dynamique qu'avant, s'il peine à se lever le matin ou à sauter sur le canapé, peut-être souffre-t-il d'arthrose. Appelez-nous au 0826 300 300. Des solutions existent pour soulager cette affection du cartilage. On verra ça en compagnie du docteur vétérinaire Thierry Poit, qui est fondateur du réseau Cap Douleur. Côté biodiversité, nous allons nous intéresser à son déclin inéluctable presque et surtout à ses conséquences sanitaires. La perte de la biodiversité est un phénomène dramatique. 1 million d'espèces est ainsi menacée d'extinction. La directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui est également vétérinaire, Hélène Soublé, sera avec nous pour nous expliquer en quoi ce phénomène impacte la santé des humains et des animaux. Enfin, dans C'est votre histoire, nous découvrirons une association de protection animale qui s'intéresse à un type bien particulier de chiens, ceux qui, par leur morphologie, font souvent l'objet d'un délit de sale gueule. La fondatrice de Gueule d'Ange, Evadia, est venue en plateau avec son chien Iron pour casser certaines idées reçues sur ces chiens. Bonjour Eva, merci beaucoup d'être avec nous. Allez, tout de suite, vos animaux.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et dans vos animaux et vous, ce matin, nous allons parler d'une affection très fréquente qui s'appelle l'arthrose. Bien sûr, vous la connaissez. L'arthrose est une maladie extrêmement douloureuse. On va essayer de voir quelles sont les solutions ce matin. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir de recevoir un vétérinaire très engagé justement dans la gestion de la douleur chez les animaux. Il s'agit du docteur Thierry Poit. Bonjour Thierry.
Bonjour Natacha.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le fondateur du réseau Cap Douleur. Est-ce que vous pouvez déjà, en premier lieu, nous expliquer ce qu'est Cap Douleur ?
Cap Douleur, c'est l'acronyme de Change Animal Pain. L'idée, c'est de changer à la fois le regard sur la douleur, mais également changer les pratiques des vétérinaires sur la prise en charge de la douleur.
Vous pensez qu'on a peut-être pendant trop longtemps hésité ou minimisé la douleur chez l'animal, on ne la prenait pas forcément en charge ?
Un peu comme en médecine humaine, et il est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas toutes les ressources thérapeutiques qui sont maintenant à notre disposition, et puis ça va de pair avec une évolution sociétale que vous connaissez bien, avec une prise en charge améliorer du bien-être, une volonté d'améliorer le bien-être animal.
Et alors parmi donc les affections chroniques qui sont particulièrement douloureuses, il y a bien sûr l'arthrose, c'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin, pour essayer de nous aider à trouver des solutions pour les animaux qui souffrent d'arthrose. D'ailleurs, n'hésitez pas à composer le 0826 300 300 si vous êtes dans ce cas de figure et que vous souhaitez poser vos questions. Mais avant, en premier lieu, Thierry Poit, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière simple ce qu'est l'arthrose ?
L'arthrose est une affection dégénérative du cartilage, mais aussi de tous les tissus environnement qui accompagnent donc cette articulation. Et puis, c'est accompagné également de poussées inflammatoires. Et tout cela, c'est responsable à la fois d'un handicap fonctionnel et puis une dégradation de la qualité de vie.
L'arthrose, on la retrouve aussi bien chez les chiens que chez les chats ?
Et a priori, en fait, il y a même une prévalence plus forte chez les chats, puisque on estime qu'il y a plus de 90% des chats de plus de 12 ans qui présentent des lésions radiologiques, 70% des chiens de plus de 8 ans.
Mm-hmm. Est-ce que l'arthrose peut se manifester à un autre moment que lorsque l'animal vieillit ? Parce qu'on sait que l'arthrose et la vieillesse, ça va un peu de pair, mais est-ce que pour un animal plus jeune, on peut être confronté à ce problème ?
Alors tout à fait, parce qu'on a les mêmes facteurs de risque en rhumatologie humaine, c'est-à-dire l'âge et l'obésité, mais on peut avoir des formes d'arthrose assez précoces en relation avec des anomalies du développement des articulations, je pense aux dysplasies.
Mmh. Alors on va donner la parole à une première auditrice qui a certainement une question à vous poser, il s'agit de Marianne. Bonjour Marianne, merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio.
Bonjour Natacha.
Alors Marianne, vous avez des animaux j'imagine à la maison ?
Oui, j'ai deux chats et deux chiens.
Ah oui, c'est bien. Vous faites partie de ces Français, 1 sur 2 à peu près, qui a un animal de compagnie à la maison. Alors vous augmentez un peu la moyenne. Oui. Est-ce que vous avez des animaux qui vous semblent souffrir d'arthrose, Marianne ?
Ben non, pas pour le moment. Pourtant, ils sont âgés. Donc, les deux chats, donc il y en a une qui a 13 ans et le chat 12 ans.
Oui.
Et deux petites chiennes qui ont 9 ans.
Et vous avez jamais l'impression que sur ceux qui sont un peu plus les plus vieux de la bande, qu'ils ont des difficultés à se déplacer, à sauter sur les canapés? Non, tout ça, ça fonctionne bien à la maison?
Ben pour l'instant, oui, ça fonctionne bien. Oui, ils n'ont pas l'air de souffrir. Non, du tout.
Bon. Est-ce que votre vétérinaire vous a déjà parlé de l'arthrose et de ce qu'il faudrait faire si jamais ça arrivait?
Non.
Non. Bon, bah écoutez, très bien. Merci en tout cas, Marianne. Vous aviez quelque chose à rajouter?
Ben, en fait, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour prévenir l'arthrose?
Pour prévenir l'arthrose, ça c'est une excellente question. Thierry Poit, est-ce qu'on peut, parce que évidemment on va parler des traitements de l'arthrose, ou en tout cas de la prise en charge de la douleur, mais est-ce qu'on peut prévenir l'apparition de l'arthrose?
Alors on peut prévenir l'apparition de l'arthrose en prenant déjà des mesures diététiques, en faisant extrêmement attention à ce que nos animaux de compagnie ne grossissent pas, parce que ce sont des facteurs aggravants.
En plus, l'obésité, d'ailleurs, j'en profite, excusez-moi Thierry, je vous coupe, ce sera le thème de la semaine prochaine.
Et puis, le deuxième moyen de prévention, c'est en parler vraiment à son vétérinaire, parce que l'auditrice parlait de signes de douleur qui paraissaient pas évidents. Il faut faire très attention, parce que chez le chat, on a des signes cliniques qui sont beaucoup plus frustres que chez le chien. Et il va peut-être falloir aller plutôt du côté émotionnel, c'est-à-dire un animal qui est plus triste, qui a moins de contact avec le propriétaire, qui peut devenir un peu irritable.
D'accord.
Donc les signes sont plus subtils chez le chat que chez le chien.
Et alors, à part surveiller la prise de poids, y a-t-il d'autres moyens de prévention ?
Alors, les autres moyens de prévention, c'est une alimentation équilibrée. Et puis, on peut aussi aménager l'environnement, essayer de donner un aménagement sécurisant pour faciliter les déplacements et limiter potentiellement un handicap fonctionnel.
D'accord. Ça veut dire quoi concrètement, aménager l'environnement par rapport au lieu de couchage de l'animal, ou... Expliquez-nous très concrètement.
Eh bien, par exemple, aménager l'environnement, ça peut consister à mettre des rampes d'accès, des petits escabeaux avec des revêtements antidérapants pour des animaux qui commencent à présenter des troubles de l'équilibre. C'est par exemple surélever les gamelles pour des animaux qui ont de l'arthrose cervicale.
Oui.
Bon, tout ça.
Ça, c'est vrai que c'est un bon conseil. On n'y pense pas forcément, mais alors ça résout vraiment beaucoup de problèmes.
Et puis une dernière chose, peut-être aussi utiliser pour les animaux âgés des matelas à mémoire de forme, qui ont l'avantage d'éviter les points de pression au niveau des articulations, et puis de stabiliser la colonne vertébrale.
Ah ben écoutez, vous voyez, Marianne, voilà plein de bons conseils très pratiques à essayer de mettre en œuvre.
Oui, ben merci beaucoup, mais est-ce que c'est inéluctable?
Docteur Poit, est-ce que l'arthrose est inéluctable?
Alors l'arthrose, une fois qu'elle est installée, on ne peut pas la guérir. Par contre, on peut soulager notamment les symptômes de douleur associés à partir du moment où on évalue ces signes de douleur.
Mmh. Et est-ce que tous les animaux en vieillissant vont présenter de l'arthrose, ou est-ce que certains vraiment n'auront jamais ça dans leur vie?
Le plus grand pourcentage des animaux vieillissants, effectivement, présentent des lésions d'arthrose radiologiques, ce qui ne veut pas dire forcément une expression clinique. Donc là, il faut faire très attention. Comme en rhumatologie humaine, une fois de plus, vous n'avez pas toujours une concordance entre les lésions radiologiques et les signes cliniques.
D'accord. Eh bien, écoutez, voilà, Marianne, j'espère qu'on a répondu à vos questions.
Oui, ben merci beaucoup.
Merci à vous pour votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. On repart au standard car nous avons Ludovic qui est avec nous. Bonjour Ludovic.
Bonjour Natacha.
Merci beaucoup, vous aussi, d'être fidèle à ce rendez-vous. Vous êtes l'heureux propriétaire de plusieurs animaux, Ludovic, ou d'un seul?
J'ai un chien de 5 ans et demi, un chat de 14 ans et demi.
D'accord. Nous écoutons votre question.
Je pense que mon chat souffre d'arthrose. Bon, avec l'âge, j'entendais le docteur qui parlait à partir de 12 ans, qui se caractérise justement par des problèmes de souplesse au niveau de l'arrière-train, on va dire, pour monter, même pour se déplacer. Par contre, qui n'a pas grossi, qui continue à être quand même à réclamer de la tendresse et à se nourrir, Voilà. Et je voulais savoir justement comment on pouvait soulager justement les douleurs liées à l'arthrose.
Alors, docteur Poit, comment prendre en charge l'arthrose une fois qu'elle se manifeste ?
Alors, il y a plusieurs moyens qui ne sont pas forcément des moyens pharmacologiques. Donc, on a parlé ensemble à l'instant des aménagements de l'environnement. Ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez recueillir auprès de votre vétérinaire des conseils en diététique, en nutrition clinique. Et puis, enfin, vous pouvez faire appel également à des moyens non pharmacologiques, c'est-à-dire de la physiothérapie. C'est-à-dire, vous pouvez faire vous-même des massages. Et puis, quand les douleurs sont installées, qu'elles entraînent un handicap fonctionnel, voire des troubles émotionnels, eh bien là, il faut avoir recours à un certain nombre de produits pharmacologiques, donc des anti-inflammatoires, par exemple, après un contrôle de la fonction rénale. Et puis, il y a d'autres classes thérapeutiques avec, en ce moment, une actualité forte autour des anticorps monoclonaux qui ont l'avantage de concilier efficacité et grande innocuité, c'est-à-dire très très peu d'effets secondaires indésirables.
Alors on va reprendre tout cela dans l'ordre pour vraiment essayer d'être le plus concret possible ce matin, parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. D'abord, vous avez parlé de massage. Concrètement, comment on s'y prend pour masser son animal, pour le soulager de ses douleurs arthrosiques ? À quel rythme doit-on le masser ? Est-ce que l'on doit utiliser des baumes de massage ?
Alors, en matière de massage, si l'on veut soulager la douleur, il faut faire ça très fréquemment. C'est-à-dire que si on veut faire ça une fois par mois, ça ne sert pas à grand-chose. Compte tenu de la physiopathologie de la douleur et des contrôles qu'on peut exercer sur celle-ci, il faut faire des massages presque quotidiennement. Pour cela, je vous invite à consulter votre vétérinaire qui pourra vous expliquer les différentes méthodes de massage en respectant une progressivité et en étant toujours, en faisant toujours ça avec douceur et puis en respectant donc une progression dans les mouvements.
Mmh. Oui, parce qu'évidemment, il ne faut pas lui faire mal. Hein.
Bien sûr.
En ce qui concerne les anti-inflammatoires, ils ont mauvaise réputation parce que certes, ils peuvent soulager d'un côté, mais ils détraquent aussi de l'autre. Quelles sont en fait les bonnes indications pour les utiliser dans le cas d'arthrose ?
Les anti-inflammatoires sont souvent indispensables parce que, comme leur nom l'indique, ils vont lutter contre l'inflammation associée à l'arthrose. Après, vous avez raison, il existe un certain nombre d'effets indésirables et il faut donc pour cela prendre un certain nombre de précautions. C'est votre vétérinaire qui prendra ces précautions en faisant un bilan biochimique. Oui. Et puis, c'est le propriétaire qui prendra des précautions en surveillant la tolérance digestive.
D'accord. Et alors, les anticorps monoclonaux dont vous nous avez parlé, ça c'est quand même assez révolutionnaire dans leur usage sur cette pathologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela plus en détail ?
Alors c'est effectivement une révolution thérapeutique parce que l'on est dans une relation antigène-anticorps avec une très haute spécificité. Ça veut dire que ça va cibler un acteur majeur de la douleur de votre chien ou de votre chat avec un profil de sécurité extrêmement élevé. Donc on a la grande chance en France d'avoir déjà des anticorps monoclonaux antidouleurs depuis plusieurs mois. Et les observations cliniques que l'on obtient notamment grâce à notre réseau Cap Douleur, eh bien, confirment la grande efficacité de ces produits.
Et ça s'utilise de quelle manière ?
Alors, ce sont des injections mensuelles, sous-cutanées, qui sont faites après une évaluation de la douleur pour bien cibler le bon candidat à ces injections.
Mmh. Et alors, on a des bruits bizarres avec vous, Thierry Poit, mais...
Je ne pense pas que ça vienne de chez moi, je suis désolée, bon. Mais...
Alors, expliquez-nous aussi, donc ces anticorps monoclonaux, vous disiez, bien ciblés, est-ce qu'on peut les utiliser sur tous les animaux arthrosiques ?
Je pense que la première étape, c'est vraiment le prérequis absolu, c'est d'évaluer la douleur, c'est-à-dire d'expliquer aux propriétaires qu'il y a effectivement des signes fonctionnels qui atteignent la mobilité, mais aussi on peut avoir des caractéristiques de la douleur différentes, je pense notamment parfois à des douleurs de type décharge électrique, et oui. Puis enfin, il faut discuter avec le propriétaire sur l'altération de la qualité de vie avec des troubles émotionnels. Et ces troubles émotionnels sont à l'origine de changements de comportement qui doivent absolument alerter. Et en fonction de cette évaluation, on va pouvoir proposer un projet thérapeutique individualisé. Mmh. En fait, ça c'est absolument la clé pour la prise en charge des douleurs chroniques. Il faut individualiser le traitement et il n'y a pas de recette miracle. Et il faut, d'autre part, ne pas proposer qu'un seul traitement. Vous avez bien compris, il faut marier les moyens pharmacologiques ces biothérapies, mais aussi les moyens non pharmacologiques.
Oui, c'est un ensemble, en fait, c'est une prise en charge globale de l'animal qui va apporter des résultats. Cette prise en charge, une fois qu'elle démarre, j'imagine qu'elle se fait au long cours, peut-être pendant toute la vie de l'animal.
En fait, il faut cultiver la médecine préventive qui consiste à proposer aux propriétaires un parcours de suivi parce que cette douleur évolue dans le temps. Mmh. Et ça nous permet d'adapter au plus près le besoin ou non en médicaments.
Est-ce que ça coûte cher, ces anticorps monoclonaux ?
Alors, ces anticorps monoclonaux ont un certain coût. Par contre, on a énormément de chance en vétérinaire. Ça n'a rien à voir avec les coûts qui sont déjà annoncés pour la médecine humaine. Donc, les laboratoires ont fait de gros efforts.
C'est quoi ? Donnez-nous une fourchette pour qu'on se rende compte. Parce que vous parlez d'une injection par mois. Donc, en gros, il faut prévoir quel budget ?
Alors, c'est à peu près, en fonction du poids de l'animal, il faut compter à peu près entre 60 et 90 euros. Toujours dans le cadre d'une consultation, parce que, eh bien, il faut mener un examen clinique rigoureux pour toujours adapter ce traitement à l'animal considéré.
Mmh. L'arthrose, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une maladie incurable, docteur Poit ?
Alors, pour l'instant, elle n'est pas incurable.
Parce qu'on soulage la douleur, ça on a bien compris dans ce que vous nous avez expliqué.
En fait, dans les objectifs de traitement de l'arthrose, il y en a un qui est atteignable, c'est soulager les douleurs.
Oui.
Il y en a un autre qui pose question, c'est est-ce qu'on peut ralentir la progression. Alors, comment en humaine, il y a le remplacement avec les prothèses qui règle le problème. C'est vrai qu'en chirurgie vétérinaire, il y a de plus en plus de cliniques spécialisées qui proposent l'alternative des prothèses. Après, il y a des éléments également prometteurs, notamment avec les cellules souches, qui vont peut-être permettre une régénération du cartilage.
D'accord. Et donc la médecine vétérinaire est aussi à la pointe que la médecine humaine sur ces sujets-là. Les animaux ne sont pas laissés de côté dans la prise en charge de leur arthrose.
Alors, je ne pense pas, et j'en veux pour preuve les nombreux contacts avec que nous avons tissés avec la médecine spécialisée de la douleur en humaine, et nous avons des échanges très fructueux dans le concept, vous savez, One Health, mm-hmm. où, qui prétend que effectivement les progrès qu'on peut faire sur les animaux peuvent également servir pour la médecine humaine.
Une dernière question qui concerne un produit qui a fait, enfin une molécule en tout cas qui fait son apparition relativement récemment sur le marché, c'est ce qu'on appelle le CBD. D'abord, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit et est-ce que le CBD peut être utile dans la prise en charge de l'arthrose de nos animaux ?
Alors le CBD, c'est le cannabidiol, c'est issu du cannabis. Il faut faire très attention.
À visée thérapeutique, hein, évidemment.
À visée thérapeutique. De toute façon, le CBD n'a pas de vertu psychoactive.
Oui.
Donc avec le cannabidiol, on reste dans potentiellement des effets thérapeutiques. Mais il faut faire extrêmement attention parce que, certes, on a une histoire très ancienne avec l'utilisation du cannabis pour soulager notamment les douleurs, mais il reste encore, en 2021, beaucoup de zones d'ombre avec cruellement un manque de preuves d'efficacité. Donc il faut faire attention à cette espèce de buzz, hein, d'où il y a énormément...
C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment,
voilà.
C'est plutôt à la mode, on va dire.
Voilà, et donc il faut faire attention. Moi j'utilise déjà depuis 3 ans, mais il faut cibler les indications. Et le CBD, après 3 ans d'utilisation, je pense pouvoir dire qu'il y a assez peu d'effets sur la mobilité.
D'accord.
Par contre, sur tous les troubles émotionnels associés à la douleur, je pense à l'anxiété, troubles du sommeil, l'irritabilité, la perte du lien ou social ou affectif, on peut avoir des résultats. Mais attention, ça nécessite, là encore une fois, le recours à un conseil vétérinaire, parce que sur Internet, on trouve beaucoup de CBD sans aucune garantie à la fois d'efficacité et de sécurité.
Mmh.
Parce qu'une dernière chose très importante à vous dire, c'est que nos animaux de compagnie ne supportent absolument pas le THC. Et quand vous achetez des produits sur Internet, vous n'êtes pas sûr que ces produits sont exempts de THC.
Mmh. Et malgré tout, on peut trouver ces produits directement en ligne.
Ben oui,
c'est assez surprenant.
Comme pour les gens.
Mmh. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Thierry Poit pour toutes ces explications. Grâce à vous, on en sait plus d'abord sur l'arthrose, mais surtout sur la gestion de cette pathologie qui est particulièrement invalidante et douloureuse pour nos animaux de compagnie. Allez, on va marquer une courte pause. On se retrouve d'ici quelques minutes pour parler faune sauvage et biodiversité.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, 10h-11h, Natacha Harry.
Merci à vous d'être à l'écoute de Sud Radio. Vous écoutez également vos animaux ce matin. Encore 30 minutes à passer ensemble. Nous allons parler de faune sauvage. Et puis, d'ici allez, une quinzaine de minutes, vous découvrirez que les molosses sont avant tout des gueules d'ange. C'est Eva qui sera là pour nous en parler. Elle est venue accompagnée d'Iron, un magnifique chien, Eva, Iron.
Exactement.
Mais tout de suite, c'est notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio, vos animaux, à l'état sauvage.
Et ce matin, nous avons choisi de parler de l'érosion de la biodiversité et de ses conséquences sur la santé des animaux et aussi sur la santé humaine. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Soublé. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vétérinaire et vous êtes la directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Alors, on parle très fréquemment du déclin de la biodiversité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que ce déclin est absolument incontestable ?
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Donc, pour étayer ceci, nous avons donc en 2019 accueilli avec plus de 100 autres pays donc le rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, donc l'IBES, qui a attesté en fait de ce déclin qui est quasi généralisé sur l'ensemble des taxons en fait, c'est-à-dire des groupes d'êtres vivants, donc ça concerne les mammifères, ça concerne les insectes, ça concerne les oiseaux, mais aussi les plantes ou les champignons qui déclinent en fonction des
milieux. En quelle proportion et est-ce qu'il y a des zones sur la planète qui sont plus atteintes encore que d'autres ?
Alors la proportion, ça dépend des groupes, mais par exemple, on a une étude qui, en 2018, dans les aires protégées allemandes, c'est-à-dire des milieux qui sont a priori protégés ou préservés d'un certain nombre d'activités humaines, où les chercheurs ont démontré sur une série temporelle de 20 ans que les insectes avaient diminué de 75% en biomasse, c'est-à-dire que la masse des insectes a diminué de 75%. Et donc on a ça par exemple. Après, il y a des milieux qui sont particulièrement sensibles, c'est les milieux qui déjà abritent une biodiversité très riche et qui sont sensibles à des perturbations. Donc on va retrouver la forêt tropicale, on va retrouver les récifs coralliens dont déjà on constate la mortalité, plus de 50% de mortalité sur les récifs coralliens. Donc c'est quand même énorme. Mais ça dépend vraiment des groupes. Et contrairement à certains groupes, il y a d'autres groupes qui sont plus adaptés à nos environnements, à notre environnement humain, anthropisé, et qui, eux, vont, à contrario, progresser.
Lesquels, par exemple ?
Par exemple, on peut voir dans nos villes, on constate qu'on a de moins en moins d'espèces en diversité, mais on a certaines espèces où il y a beaucoup d'individus, par exemple les pigeons à Paris, les rats en ville, ce genre d'espèces, les moustiques aussi, c'est un cas un petit peu particulier, les moustiques, puisque il y a 3500 espèces de moustiques environ, et dans ces 3500 espèces de moustiques, il n'y en a que 300 qui piquent l'homme. Et ben on se rend compte, les chercheurs démontrent que dans les environnements qui sont anthropisés, c'est-à-dire soit les milieux déforestés, soit les milieux urbains, ces 300 espèces sont dominantes. Et donc, quand vous rencontrez un moustique, vous avez du coup beaucoup de chances de vous faire piquer parce que c'est un moustique piqueur qui est habitué à nos environnements, aux trous d'eau, aux ornières, à un environnement un peu plus chaud.
Oui, alors finalement, ce qui aurait pu paraître être une bonne nouvelle, voir des espèces progresser, n'est pas une si bonne nouvelle que ça.
Non, et la recherche le démontre de mieux en mieux. C'est-à-dire que maintenant, on sait de façon assez précise que lorsque l'homme crée sa niche écologique, on fait partie de la biodiversité, on est un mammifère comme les autres, et donc on va adapter l'environnement à notre usage. Donc on crée une niche écologique. La ville, c'est la niche écologique de l'homme.
Oui.
Les territoires agricoles aussi. Et bien, quand l'homme fait ça, en fait, en même temps, et sans le vouloir, il sélectionne des espèces qui sont adaptées à l'homme, parce qu'elles ont coévolué avec nous. Et ces espèces, les chercheurs démontrent une étude assez massive sur plus d'une centaine d'espèces a démontré que les espèces qu'on sélectionnait comme ça, involontairement, en fait, elles portaient des pathogènes qui étaient partagés avec nous et que les espèces qui disparaissaient, en fait, c'était les espèces qui ne portaient pas de pathogènes susceptibles d'être transmis à l'homme.
Et ça fait un peu peur quand même à vous écouter.
Oui, ça... En effet, ça peut faire un peu peur. C'est en fait la gestion des écosystèmes et la gestion de cette biodiversité, elle est complexe parce que la biodiversité, c'est 12 millions d'espèces potentiel. Certains chercheurs disent même que c'est beaucoup plus
beaucoup
si
plus.
On compte voilà tous les micro-organismes, mm-hmm. Par exemple que vous portez, que je porte, voilà que Eva porte. Et donc ces micro-organismes, en fait, ça peut être des espèces individuelles qui sont spécialisées dans l'individu. Mm-hmm. Mais sur ces 12 millions, on va dire, ou plusieurs millions, eh bien on n'en connaît que deux. Donc on a du mal en fait à prévoir ce qui va se passer lorsqu'on modifie un écosystème, lorsqu'on crée un champ agricole, lorsqu'on déforeste, mmh. Voilà. Et donc on le constate a posteriori, et bien souvent, en fait, c'est quand il y a une crise, quand il y a un événement qui se passe, et la maladie infectieuse, c'est une crise, c'est un événement, c'est une émergence. Quand il y a cette émergence, eh bien, on se demande pourquoi, et bien souvent, on se rend compte que c'est dû à la modification de l'environnement.
Mmh. Alors, quels sont les impacts directs, en quoi l'homme, finalement, modifie ce milieu, parce qu'il a des impacts divers et variés, on sait aujourd'hui assez clairement les identifier.
Oui, tout à fait. Alors, la plateforme dont je parlais précédemment, donc LibBES, a identifié, sur la base des publications scientifiques que les experts ont évaluées, 5 pressions directes, qui sont les pressions principales sur la biodiversité. Donc, la première, c'est le changement d'usage des terres. Donc, quand vous déforestez ou quand on transforme un paysage naturel en ville, ça, c'est le changement d'usage des terres. Ça, c'est l'un des effets principaux sur la biodiversité terrestre. Ensuite, la deuxième pression, c'est le prélèvement des ressources. Donc, on va pêcher, on va chasser, on va prélever de la biomasse, c'est-à-dire de la matière organique, des plantes pour manger. Ça, c'est la pression principale. Enfin, c'est la deuxième pression sur le milieu terrestre. Ça, c'est la première pression qui impacte la biodiversité marine. Mm-hmm. La troisième pression anthropique, c'est-à-dire due à l'homme, c'est le changement climatique. Qui évidemment a des incidences sur la biodiversité. Et à rebours, la biodiversité va aussi aggraver le changement climatique. Donc on est dans un espèce de cercle vicieux qui va falloir à un moment
casser.
Et puis la troisième pression, qui je pense est très très sous-évaluée, c'est la pression de pollution. C'est-à-dire on pollue notre environnement avec des molécules qui ne sont pas nécessairement des molécules qui sont capables d'être réinjectées dans les cycles naturels. Par exemple, le plastique, c'est typiquement une molécule chimique qui n'a pas sa place dans les cycles naturels. Donc pour l'instant, elle ne peut pas être prise
en charge.
Elle s'accumule. Voilà, elle s'accumule, elle n'est pas prise en charge par le processus naturel de dégradation. Mmh. Et puis la cinquième pression dont parlent les chercheurs, c'est les espèces exotiques envahissantes qu'on amène avec nous, qui utilisent nos routes, qui utilisent nos avions, nos bateaux, et qui vont se disperser dans le monde entier.
Et qui font concurrence à des espèces locales, jusqu'à parfois les faire disparaître.
Voilà, et c'est un peu le même phénomène que j'expliquais précédemment, c'est-à-dire que ces espèces-là, elles sont adaptées à l'homme, et donc elles ont des succès évolutifs. Souvent, elles ont...
Y compris en France. Là, on parle pas de contrées lointaines, on parle de notre pays. On est confronté aujourd'hui clairement à cette situation des espèces envahissantes.
Par exemple, le rat est une espèce exotique envahissante, puisque le rat vient d'Asie et il s'est développé en fait auprès des premières sociétés humaines lorsqu'on a commencé à stocker les produits de l'agriculture, et ensuite il nous a suivis un peu partout, et maintenant le rat, personne ne peut dire qu'on n'a pas quelques nuisances dues à cette espèce. Mais en fait, cette espèce, elle est là parce qu'on la nourrit, elle est là parce qu'il y a de la ressource, elle est là parce qu'elle est adaptée à nous, et en fait elle fait comme nous, elle profite de l'environnement qu'on lui offre, et son seul tort en fait c'est de s'être adaptée à nous, et donc évidemment on considère qu'ils sont trop nombreux, mais peut-être que le rat considère que l'homme est trop nombreux aussi.
Tout à l'heure, avec mon invité précédent, il nous a parlé de cette notion de One Health, c'est-à-dire une seule santé pour les animaux, pour les humains. Et là, on est en plein dedans quand on parle d'érosion de la biodiversité. Cette érosion, elle a un impact direct sur la santé et des animaux et sur la santé des humains.
Oui, tout à fait, parce que par exemple, on a bien corrélé le fait que la déforestation était le facteur d'explication d'un certain nombre d'émergences de maladies. Donc par exemple, l'émergence d'Ebola, qui est une fièvre hémorragique assez mortelle, puisqu'on peut avoir jusqu'à 80% de mortalité, a été clairement liée à des déforestations de forêts denses et des déforestations qui sont intervenues dans les 2 ans précédentes. Et donc on a des foyers épidémiques.
De quelle manière, très, très concrètement, puisque vous avez pris cet exemple d'Ebola, de quelle manière la déforestation a créé l'émergence de cette maladie qu'on ne connaissait pas ou peu précédemment?
Alors, Ebola, c'est probablement parce qu'il y a eu contact avec des chauves-souris qui étaient porteurs de ce virus qui est assez pathogène. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de viande de brousse. C'est-à-dire que les gens vont chasser dans la forêt et vont de plus en plus loin dans cette forêt. Et donc, rencontrent de plus en plus des animaux qui sont porteurs de virus qui vont finalement réussir à s'adapter à l'homme. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour avoir une émergence infectieuse, il faut plusieurs choses. Il faut d'abord un danger, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un pathogène quelque part qui... et la possibilité de s'adapter à l'homme, mais il faut aussi qu'il y ait un contact avec ce danger. C'est-à-dire que vous et moi, par exemple, on est très peu susceptibles d'attraper Ebola demain. C'est sûr. On n'est pas en Afrique, a priori. Donc ça, c'est le contact, c'est le fait d'être en contact avec cet agent pathogène.
Après, on a vu, et le coronavirus, le Covid-19, on est un bon exemple. Le foyer de départ, qu'on a encore un peu de mal à identifier, mais peut être très loin de nous, et puis... dans certains cas de figure, finalement, ça se répand sur l'ensemble de la planète. Donc, on n'est pas à l'abri, finalement, d'être victime de l'émergence de nouvelles maladies, même si elles démarrent très loin de nous.
Oui, voilà, ça c'est typiquement le deuxième aspect de ce risque, qui est le contact. C'est-à-dire que si on favorise le contact, donc la déforestation favorise le contact parce qu'on va aller en contact avec ces animaux, un individu va aller en contact avec ces animaux, et ensuite l'humain lui-même favorise la dispersion de ces virus, par exemple par les avions, les bateaux, les routes commerciales, les produits alimentaires aussi qui peuvent être susceptibles de transmettre des bactéries ou des virus pathogènes pour l'homme. Donc ça, c'est le contact. Et le dernier élément de ce risque d'attraper une maladie infectieuse, c'est la susceptibilité individuelle. On le voit bien sur le coronavirus. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même susceptibilité. Vous pouvez être en face du danger, donc en contact avec ce danger, et ne pas attraper la pathologie.
Je vais vous donner un chiffre que j'ai pris dans des publications. C'est 60% des maladies infectieuses sont d'origine... animal, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer vraiment ce rôle majeur des animaux dans la transmission de certaines maladies aux hommes ? On voit que l'animal est au centre de beaucoup de choses finalement, et qu'on ne peut pas d'un côté avoir les animaux et leurs maladies, et d'un autre côté les humains et leurs maladies. Tout ça est intimement lié.
Oui. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les humains ont coévolué avec ces animaux depuis très longtemps, depuis la domestication, qui est d'ailleurs bien plus ancienne que l'agriculture. On s'est échangé des pathogènes par la proximité, parce qu'on vit avec ces animaux-là. Donc, les premiers animaux, en fait, qui sont susceptibles de nous transmettre des maladies, ce sont nos animaux domestiques. Donc, l'élevage en particulier intensif des ruminants ou des volailles, parce que on met les animaux, en fait, dans des conditions de stress et de qui sont très éloignés en fait de leurs conditions de vie naturelles. Donc on arrive à éviter ces émergences infectieuses dans les grands élevages parce que on met en place ce qu'on appelle des mesures de biosécurité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ces mesures de biosécurité à un moment sont dépassées, s'il y a une faille, un pathogène qui rentre dans ces élevages-là, il va se diffuser très très vite. C'est ce qu'on voit chez les volailles, par exemple. La grippe aviaire, c'est vraiment la grippe, c'est vraiment un des exemples emblématiques parce que on a des individus qui sont génétiquement homogènes, qui sont dans des conditions défavorables, donc plus stressés, moins aptes à se défendre, en fait, avec une immunité qui est plus faible. Et donc, on va avoir diffusion très rapide de ces maladies-là. Il faut revenir, par exemple, sur un fait historique. Après la Première Guerre mondiale, la grippe, qu'on a appelée la grippe espagnole, parce qu'il n'y a que les Espagnols qui ont accepté de dire qu'il y avait une maladie qui circulait, puisque la France, notamment, avait dit non, surtout, on ne dit rien. C'était en 1919, donc il fallait surtout pas dire.
Millions de morts
et ça a
partout.
Fait, en effet, on parle de 50 millions de morts, donc c'est quand même énorme. Et ça, c'était une grippe qui venait en fait d'un élevage industriel des États-Unis, et à la faveur des mouvements de troupes, ça s'est diffusé très très bien. Après, il y a un deuxième phénomène, c'est aussi les animaux sauvages, c'est-à-dire que la chasse, la capture, la mise en captivité, les marchés qu'on voit dans en Asie du Sud-Est, qui sont des marchés d'animaux vivants, c'est des lieux en fait où il y a beaucoup de pathogènes, et l'homme est en contact avec des animaux qui sont malades, susceptibles de développer du coup des pathologies, peut-être dont ils étaient porteurs sains avant, mais les conditions de stress font qu'ils tombent malades, que le virus ou la bactérie se multiplie et que donc ils peuvent transmettre ça à l'homme.
Donc on a bien compris que les hommes, nous avons tous finalement une responsabilité sur l'émergence de cette nouvelle maladie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de manière assez pragmatique, sans être dans des grandes théories, mais pour limiter ce risque ?
Alors, il ne faut pas aller dans la brousse chasser des animaux sauvages, mais je pense que pour les occidentaux, c'est assez simple à respecter. Non, je pense que pour limiter le risque, il faut bien considérer que nos actes d'achat, nos actes de consommation ont des risques assez forts hein, de provoquer des émergences infectieuses ailleurs dans le monde. Il ne faut pas considérer uniquement le risque chez nous. Et je pense que voilà, acheter un produit qui est susceptible d'avoir provoqué de la déforestation en Asie du Sud-Est, en Afrique ou en Amérique du Sud, c'est déjà un mauvais calcul en fait pour l'humanité de façon générale. On l'a bien vu, le coronavirus, il a émergé en Asie et puis ensuite il a été diffusé par nos moyens de transport. Mais voilà, si on n'avait pas perturbé les chauves-souris, la chauve-souris qui est probablement à l'origine, enfin qui était porteuse de ce virus, d'ailleurs porteuse sain, parce que la chauve-souris ne déclare pas la maladie.
D'ailleurs, la chauve-souris est souvent porteuse de beaucoup de virus.
Oui, tout à fait, la chauve-souris.
De manière indolore pour elle.
Voilà, oui, tout à fait. On dit que la chauve-souris porte environ 200 virus, dont une quinzaine serait potentiellement très pathogène pour l'homme. On a déjà des exemples. Et le coronavirus, c'est un vrai exemple. Sauf que le coronavirus, s'il était resté dans la chauve-souris ou si, au niveau local, les malades n'étaient pas partis dans le monde entier, on n'aurait pas eu cette pandémie mondiale.
Sauf que ça, c'est pas possible. Parce qu'on est dans un monde où vraiment tout bouge, où il y a des interactions permanentes.
Voilà.
Donc en résumé, même si ce sujet est particulièrement compliqué à résumer, chacun de nous avons des gestes simples à faire pour essayer de limiter un peu la survenue potentielle de ces maladies qui peuvent tous nous impacter.
Oui, voilà. Moi, je pense que je pense que la déforestation, c'est vraiment le nœud sur lequel il faut agir pour les maladies infectieuses. Hein, et donc, il faut éviter cette déforestation. Donc, éviter de consommer des produits qui vont générer de la déforestation. Donc, il faut bien faire attention quand on consomme, du café, de la viande aussi ou du lait, hein, parce que les élevages industriels français consomment du soja pour nourrir leurs bêtes, et ce soja provoque la déforestation, par exemple, de la forêt amazonienne. Et cette forêt, elle est en grand danger. Hein, donc, il faut toujours avoir conscience de ça et réfléchir son alimentation peut-être différemment pour manger moins mais mieux. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications extrêmement passionnantes. On aurait pu vous écouter encore beaucoup plus longtemps parce que franchement, le sujet le mérite. Merci à vous, Hélène Soublé. On va marquer à nouveau une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes avec nos gueules d'ange.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, c'est votre histoire.
Et dans C'est votre histoire aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter Iron. Salut Iron. Pour ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, vous allez peut-être apercevoir sa petite frimousse, une vraie gueule d'ange, notre Iron. Iron, il a 8 ans, c'est ça Eva ?
Oui, c'est ça, il a 8 ans.
Bonjour Eva. Bonjour. Eva Dia, vous êtes la fondatrice de l'association Gueule d'ange.
Oui.
Une association que vous avez créée maintenant il y a combien d'années ?
Alors, en 2014, donc ça commence à faire un petit bout de temps maintenant.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une association pour défendre Iron et ses compères ? Ouais, toutes les gueules d'ange.
Alors, l'histoire, je vais vous la résumer en quelques mots. En fait, moi, je suis passionnée de la protection animale depuis très, très jeune. Et de métier, je suis réalisatrice, donc j'ai déjà fait des spots pour diverses associations. Et j'ai eu Iron, donc tout petit, tout le monde le trouvait super mignon, je me promenais en forêt avec. Et en fait, il a commencé à grandir, normal pour un chien.
Préciser peut-être la race d'Iron pour nos auditeurs.
C'est un American Staff.
Un American Staff, donc un chien de gros gabarit qui fait partie des molosses. Alors,
moyen gabarit et
massif.
Et c'est un terrier. Je précise à chaque fois parce que souvent on me dit c'est un molosse et Iron est un terrier.
Pardon, vous faites bien de le préciser.
Non, c'est... Et du coup, je me promenais, donc les réactions des gens étaient devenues un peu plus excessives, donc j'avais le droit aux insultes, aux gens qui changeaient de trottoir.
Carrément.
On nous a même lancé des objets, on nous fermait les portes, donc ça devenait des comportements humains vraiment.
Sans que Iron démontre le moindre comportement agressif, désagréable envers les gens.
Non, pas du tout. C'est vrai qu'Iron est un chien que j'ai éduqué... j'ai éduqué des petits, un comportement irréprochable. Donc, mon chien ne va pas forcément vers les gens, sauf si on lui
sauf si
autorise.
On l'appelle,
voilà.
Bien sûr.
Et un jour, j'ai eu une altercation un peu violente avec des promeneurs.
Oui.
Et de là, je me suis dit, mais il faut vraiment faire quelque chose pour que les gens arrêtent d'avoir peur comme ça de ces chiens.
Oui, parce qu'en fait, les gens vous agressaient par peur. Ils anticipaient une potentielle réaction d'Iron.
Exactement.
Oui.
Alors que, il n'y avait pas lieu d'être. Et de là, je me suis dit, je vais utiliser mon métier pour montrer une autre image. J'ai réalisé un spot pour montrer voilà, une autre image de ces chiens-là. Donc, on voyait plusieurs tableaux, des chiens médiateurs, des chiens sauveteurs, voilà, tout un tas de tableaux avec qui véhiculaient une autre image. Mm-hmm. Ce spot-là, sur Internet, a fait son petit buzz. On a aussi rassemblé une grosse communauté des gens qui vivaient la même chose.
Oui, parce que votre cas n'est évidemment pas un cas isolé.
Ah non, c'est pour tout le monde, c'est quotidien. Et de là, bah, on a fait un premier rassemblement et je me suis dit, bah, autant faire les choses de manière plus...
plus structurée.
Ouais, plus structurée. Donc du coup, on a créé l'association Gueule d'Ange.
Mmh. Alors cette association, elle regroupe qui ? Ce sont des propriétaires de chiens comme vous ?
Oui. Alors en fait, on va avoir deux axes avec l'association Gueule d'Ange. Un axe un peu plus public. Donc là, oui. Ça va être des adhérents, les gens qui vont voilà, se reconnaître, qui peuvent... ou non avoir des chiens comme Iron. Hein. Ça
d'accord.
peut être aussi une personne qui a un chihuahua qui a envie de se battre un peu pour cette cause, donner une autre image, peut être la bienvenue. Donc on va
vous
faire...
Vous n'êtes pas sectaire, c'est bien.
Bah, on l'est pour nos chiens. C'est vrai que quand je voulais faire des cours d'éducation, on m'a souvent refusé parce que c'est un American staff. Les groupes de balade, c'est pareil. On nous refuse de beaucoup d'endroits.
D'accord.
Nous, chez nous, on accepte tout le monde.
D'accord.
Donc, on va faire voilà, des balades à thème. Halloween, bah, la plus récente, tous les chiens sont déguisés, toujours dans le respect de l'animal, bien évidemment. On va faire des shooting photos, des journées sportives, voilà, vraiment des choses un peu sympathiques, ludiques, pour donner cette autre image et partager des moments sympas avec son chien.
Globalement, quelles sont les races qui sont concernées par ce regard négatif des gens qui ne les connaissent pas ?
Alors, bon, pour la loi, c'est assez précis parce que vous allez avoir les chiens de catégorie 1 et 2.
Oui.
Donc, une, ça va regrouper les chiens dits pitbull. Mm-hmm. Je mets des guillemets parce que c'est, voilà, ça va être du staff non-love,
oui.
ça va être voilà, plein de choses. On va avoir le tosa,
oui.
et le non-love, excusez-moi, et le boer bull.
Mm-hmm.
En chien de catégorie 2, on va avoir l'American staff, le Rottweiler mm-hmm. et le tosa love.
Mm-hmm. Donc, tous ces chiens ont mauvaise réputation. Est-ce que, malgré tout, vous pouvez comprendre la position des gens qui craignent ces chiens ? Parce que c'est vrai qu'ils sont puissants, on voit bien. Et puis, il y a eu aussi des événements dramatiques, fortement médiatisés, qui ont révélé que ces chiens pouvaient avoir une dangerosité forte. Mais peut-être pas plus que d'autres. Hein.
Bah, c'est ça, c'est ce qu'on explique aux gens. Un chien reste un chien. Honnêtement, enfin, comme vous et moi, si je me fais morte par un labrador, je vais avoir aussi des dégâts
bien
qui
sûr,
peuvent être très, très importants. Et voilà, on sensibilise aussi les gens sur le comportement canin de manière générale. Mmh. Ils ne sont pas plus dangereux que d'autres races. Les médias en ont fait aussi... bah voilà, ça a été un peu la bête de foire. C'est
ouais.
beaucoup plus intéressant, et je mets encore des guillemets, de montrer une attaque de pitbull sur un enfant que si le cocker de la mamie a arraché la moitié du visage, on va pas
parler. Ils ont peut-être aussi été, à un moment donné, malheureusement, dans de mauvaises mains, qui a fait cette publicité négative.
Bien sûr, ils ont été utilisés bah voilà, comme chiens
de combat, chiens dans les cités,
etc.
Et c'est sûr qu'on n'utilise pas des chihuahuas pour faire des combats de chiens dans les cités, par exemple.
Pas à ma connaissance, mais ça se trouve, mais non, c'est vrai que non.
Ça pourrait, mais enfin bon, c'est vrai que c'est moins fréquent. Donc vous, votre combat, c'est vraiment celui-ci, c'est de dire, voilà, ces chiens sont des chiens comme les autres, ils doivent s'éduquer comme les autres
évidemment,
aussi, et ça c'est très important. Et quand ils sont dans de bonnes mains, avec des maîtres responsables qui les éduquent, regardez, ce sont des vrais Goldens.
Exactement, et c'est pour ça que du coup, on a cet autre axe, l'axe un peu plus voilà, privé, où moi et mes confrères, on intervient... Bah, dans les EHPAD.
Ouais.
Donc Iron qui est avec moi, c'est mon chien de travail où voilà, il apporte beaucoup d'amour dans les EHPAD. On fait aussi des interventions dans les écoles.
Ouais. Peut-être que dans les EHPAD, avant de parler des écoles, peut-être que dans les EHPAD, il n'y a pas ce regard négatif des personnes âgées. Ils sont tout simplement contents de voir arriver un chien.
Exactement.
Ouais.
C'est vrai qu'on pose un petit peu la question aux personnes, puisqu'on discute beaucoup avec les personnes en EHPAD. Et non, ils n'ont pas d'a priori. Justement, ils sont très ouverts.
C'est juste le bonheur de voir un animal rentrer dans leur environnement. Et alors, dans les écoles, hein, comment ça se passe ?
C'est marrant parce que les chiens n'ont pas du tout le même comportement quand ils sont dans les EHPAD ou dans les écoles.
Oui.
Comme c'est des jeunes, bah, du coup, les chiens sont un peu plus foufou, vont jouer avec les jeunes. Enfin, ça adapte vraiment au comportement de leur public, si je peux dire ça comme ça. Et non, il n'y a pas d'a priori. C'est vrai qu'on pose toujours la question avant. Est-ce qu'il y a des personnes qui en ont peur ?
Oui.
Ça peut être possible et c'est très très rare et c'est d'ailleurs jamais arrivé. En fin de séance, bah, tout le monde les caresse, personne n'a peur.
Il y a combien d'adhérents, Eva, dans votre association aujourd'hui ?
Alors nous, on compte au total une centaine d'adhérents et une vingtaine actifs actuellement.
Et très rapidement, comment on vous suit, comment on vous retrouve sur les réseaux sociaux ?
Alors, vous pouvez nous suivre sur Gueule d'Ange, au pluriel, bien évidemment, ou Gueule d'Ange officiel pour les réseaux Instagram.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu avec Iron ce matin. Et je confirme qu'il est extrêmement gentil. Vraiment, il a été sage comme une image. Merci de défendre tous ces chiens. Allez, c'est la fin de vos animaux. Je vous souhaite un excellent week-end. Et allez les bleus pour ce soir. On croise les doigts, bien sûr.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.